France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Les journaux de Franz Kafka devraient lever le mystère de ce personnage singulier, à la vie en apparence si banale et à l'œuvre si riche. Pourtant, la lecture de ceci ne fait qu'approfondir l'intrigue qui entoure la vie intérieure opaque de ce personnage central de la littérature européenne du XXe siècle. Dans ce 9e et dernier épisode de la journée Kafka par Jean Dave, Isabelle Huel et Jacques Taroni, diffusé pour la première fois le 17 septembre 1983, Alain Weinstein, Marc-Alain Wachnin, Charles Mopsik, Jean Thibaudot, Jean Le Gac, Anne-Marie Albiac et Christian Boltanski évoquent ce journal et ses implications dans une émission parsemée d'extraits savamment choisis du dit journal. Du Talmud à la figure du bouffon, Kafka dans tous ses états, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Vous êtes à l'écoute de France Culture. Journée Franz Kafka à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Posloucháte Radio France Culture. Tato emise je věnována Franzi Kafkovi k stému výročí jeho narození.
Décembre. Il y a un instant, je me suis attentivement regardé dans la glace et même en m'examinant de près, je me suis trouvé mieux de visage. Il est vrai que c'était à la lumière du soir et que j'avais la source de lumière derrière moi, de sorte que seul le duvet qui couvre l'ourlet de mes oreilles était vraiment éclairé, que je ne le suis à ma propre connaissance. C'est un visage pur, harmonieusement modelé, presque beau de contour. Le noir des cheveux, des sourcils et des orbites jaillit comme une chose vivante de la masse du visage qui est dans l'expectative. Le regard n'est nullement dévasté, il n'y a pas de trace de cela, mais il n'est pas non plus enfantin. Il serait plutôt incroyablement énergique, à moins qu'il n'ait été tout simplement observateur, puisque j'étais justement en train de m'observer et que je voulais me faire peur. 1914, 4 janvier. Nous avions creusé dans le sable un trou où nous nous trouvions très bien. La nuit, nous nous enroulions à l'intérieur du trou que notre père fermait en jetant par-dessus des troncs et des broussailles, et nous étions aussi bien protégés. Non, mais les textes sont admirables, quoi. C'est vrai, quand on les relit chaque fois. Nous avions creusé dans le sable un trou où nous nous trouvions très bien. La nuit, nous nous enroulions à l'intérieur du trou que notre père fermait en jetant par-dessus des troncs et des broussailles, et nous étions aussi bien protégés que possible contre les tempêtes et les animaux. « Père !» crions-nous souvent, tout peureux quand il faisait déjà sombre sous les troncs et que le père tardait à apparaître. Mais ensuite, nous apercevions ses pieds à travers une fente. Il se laissait glisser jusqu'à nous, donnait à chacun une tape légère, nous étions rassurés par le contact de sa main, et nous nous endormions tous, littéralement ensemble. Outre nos parents, nous étions 5 garçons et 3 filles. Le trou était trop étroit pour nous, mais nous aurions eu peur si nous n'avions pas été aussi étroitement pressés les uns contre les autres, les uns sur les autres, dans la nuit.
Thank you. dans les textes, dans les récits de Kafka, tels le procès, le château, les autres textes, en dehors de préparatifs de noces, il n'y a pas de référence explicite au Talmud. Mais si on ouvre le journal de Kafka, on voit qu'il a fréquenté, peut-être pas le texte directement, et on en a une preuve par une citation qu'il fait en se trompant dans le nom d'un personnage important qui s'appelle Elisha ben Abouya, et il le nomme Eliezer. S'il n'a pas fréquenté directement les textes, il a fréquenté des gens qui connaissaient bien le Talmud, et je pense en particulier à Levi ou à Langer.
Marc-Alain Wachnim.
Mais on voit dans certains textes du journal où il dit explicitement avoir été à la synagogue de Altneuil, qui est la synagogue de Prague, et où il dit avoir assisté à un cours de Mishnah, la Mishnah étant la partie essentielle du Talmud, et avoir eu un vif intérêt pour la controverse qui était en jeu. Alors je voudrais citer de son journal le passage qui est le seul passage en fait au niveau du contenu talmudique. Et je voudrais après le comparer peut-être avec le texte original, pour voir dans cette différence entre l'original et cette répétition, l'écoute particulière spécifique de Kafka. C'est-à-dire comment Kafka a entendu, qu'est-ce qu'il a sélectionné, qu'est-ce qu'il a retenu de façon sélective de ce qu'on lui a dit du Talmud. Et ce passage talmudique est très important, car il est à la frontière entre ce qui est proprement talmudique, c'est-à-dire non ésotérique, et la Kabbale, qui est le commentaire ésotérique de la Bible. Alors on trouve le 29 octobre, dans le journal de l'année 1910, Levi. Quatre amis de jeunesse devinrent dans leur vieillesse de savants talmudistes. Mais chacun d'eux eut un destin différent. L'un devint fou, l'autre mourut. Rabbi Eliezer devint libre penseur à l'âge de 40 ans. Et seul leur aîné, Akiba, qui n'avait commencé à étudier qu'à 40 ans, parvint à la connaissance absolue. L'élève d'Eliezer était le Rabbi Meir, un homme dont la piété était si grande que l'enseignement du libre penseur ne lui nuisait pas. Comme il disait, il mangeait la noix et jetait la coquille. Un samedi, Eliezer fit une promenade à cheval. Rabbi Meir, le Talmud à la main, le suivit à pied, sans toutefois faire plus de 2000 pas, puisqu'il n'est pas permis de marcher davantage le samedi. La promenade donna lieu à un échange de propos symboliques. « Reviens vers ton peuple, » dit Rabbi Meir. Rabbi Eliezer refusa en faisant un jeu de mots. Ça, c'est la citation de Kafka. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a ici une erreur qui montre qu'il ne connaissait pas le texte vraiment, puisque l'élève ne s'appelle pas du tout Eliezer, mais s'appelle Elisha ben Abouya, et a la particularité d'avoir eu son nom transformé dans le Talmud, puisque comme on le dit ici, il est devenu libre penseur, il est devenu athée, et les maîtres de sa génération, tout en le considérant encore comme un talmudiste, comme un sage de leur valeur, lui ont changé son nom et l'ont appelé Acher. Acher, ça veut dire l'autre. Et dans le Talmud, on voit un homme qui s'appelle l'autre, et qui est en fait Elisha ben Abouya, que Kafka nomme Eliezer. Et ce texte est très important, car les quatre personnages, si je reprends le texte, il dit devinrent dans leur vieillesse savants talmudistes. En fait, le texte original, je vais vous le lire, dit que ces quatre maîtres ont voulu pénétrer dans le Pardès. Dans le Pardès, ça veut dire dans le paradis. Mais en fait, ce qui est plus intéressant que le paradis, ça veut dire les commentaires classiques tels que Rashi et Tosfot disent qu'ils sont montés au ciel à lieu d'Echem, par exemple. C'est-à-dire, excusez-moi, je traduis, ils sont montés au ciel à lieu d'Echem, ça veut dire par l'intermédiaire du nom. Et dans le Zohar, justement, il y a une identité numérique entre le mot « nom »,« shem », et le mot « sefer », le mot « livre ». C'est-à-dire qu'on pourrait retraduire cet épisode du Talmud comme la volonté de parvenir au ciel, ça veut dire d'entrer dans le mouvement de transcendance, par l'intermédiaire du livre. Et ce ciel, ce pardès, en fait, ce n'est pas un ciel d'en haut, c'est-à-dire, mais c'est un ciel métaphysique, et qui signifie les quatre niveaux de l'écriture. Et à partir de l'écriture du Zohar, le mot Pardès est devenu l'anagramme des mots Pshat, Remez, Drash, Sod. C'est-à-dire Pshat, le sens littéral qu'a un texte, Remez, le sens allusif, Drash, le sens allégorique, et Sod, le sens kabbalistique, ésotérique. Ça veut dire que ces quatre maîtres ont voulu pénétrer dans les profondeurs du texte, dans le volume du texte, et n'y sont pas arrivés. L'un est devenu fou, l'autre est mort. L'un est devenu Acher, est devenu l'autre, il est passé de l'autre côté. Et seul Rabbi Akiva est resté Rabbi Akiva parce qu'il avait commencé à étudier à 40 ans, et ça, Kafka le reprend, cette prudence qu'il y a dans l'étude. Alors je crois que c'est très intéressant dans notre approche de Kafka, de voir que le seul texte talmudique qu'il rapporte dans son journal qui n'est pas simplement un propos, comme dit par exemple Martin Robert dans l'introduction au journal, dit « Kafka n'a jamais écrit une ligne qui ne fut en quelque manière liée au but de sa vie ». Et si cet épisode talmudique apparaît dans le journal, c'est que cet épisode talmudique est une chose qui fait partie de la vie de Kafka. Et pour lui, le Talmud, en écoutant cet épisode, c'est surtout cette possibilité et cette volonté et cette possibilité d'atteindre l'au-delà ou l'invisible, qui peut être par exemple ce qu'il n'a pas atteint dans le château, par le biais du livre, et non seulement par le biais du livre, mais par le biais des différents niveaux, c'est-à-dire du volume qui existe dans le livre. Ça, c'est le premier point que j'aborderai. Si je peux continuer, il y a un autre point.
Vous avez cité tout à l'heure le procès, le château. Enfin, est-ce qu'il y aurait, selon vous, des citations, des traces implicites dans ces livres-là ou dans d'autres nouvelles?
Oui. Alors ça, c'est justement là où je voulais en venir. Max Brod, déjà, dans la préface des œuvres du château, enfin dans la préface de l'édition complète, des œuvres complètes, disait qu'il y a une dualité entre le château, enfin le château et le procès vont ensemble, mais représentent deux parties, deux pôles différents de ce qu'on retrouve soit dans la Kabbalah et soit même déjà dans le Talmud, de ce qu'on appelle Midat Adin et Midat Hesed. Midat Adin, ça veut dire la qualité de rigueur, la justice, et Midat Hesed, c'est l'autre côté qui est celui de la générosité, de la bonté, de cette... comment tu traduis C'est-à-dire que un qui est le droit, c'est-à-dire le procès, et l'autre qui est quelque chose qui est plus narratif, le récit. Alors Blanchot le dit très bien, on est très surpris en lisant Blanchot, dans le chapitre qui s'appelle Le Pont de Bois, où il cite ces deux niveaux, ces deux pôles aussi qui existent dans la littérature talmudique, qui est le Midrash Halakha et le Midrash Agada. C'est-à-dire que tout le Talmud est parcouru...
Comment s'en tire-t-il Blanchot?
Très bien.
Oui, on peut entendre la citation.
Ah oui, c'est magnifique parce qu'il dit cette chose extraordinaire, que le château, en fait, est une page talmudique. Et alors ça c'est déjà plus intéressant parce que c'est déjà l'écriture de Kafka qui est travaillée. J'allais dire Blanchot, mais enfin pour moi, Blanchot et Kafka sont très proches. Il dit la chose suivante. Voilà, il me semble tout ce qu'on a le droit d'avancer. Peut-être que si je reprends avant, il dit... Mais je l'ajouterai aussitôt, en proposant ces remarques, je ne prétends nullement proposer une nouvelle interprétation du château, ni suggérer que K était purement et simplement l'écrivain Franz Kafka, le château, la parole biblique, les bureaux, les commentateurs talmudiques, le village, le lieu des fidèles, où la parole répétée serait à la fois vivante et morte, juste comme commandement authentique si on lui appartient de l'intérieur, au contraire décevante, voire absurde, si on l'aborde de l'extérieur en prétendant de plus en juger et en parler sans avoir reçu d'enseignement préalable, etc. Et plus loin, il dit « Voilà, il me semble, tout ce qu'on a le droit d'avancer. Le château n'est pas constitué par une série d'événements ou de péripéties plus ou moins liées, mais par une suite toujours plus distendue de versions exégétiques, lesquelles ne portent finalement que sur la possibilité même de l'exégèse, la possibilité d'écrire et d'interpréter le château. Et si le livre s'arrête, inachevé, inachevable, c'est qu'il s'enlise dans les commentaires, chaque moment exigeant une glose interminable, chaque interprétation, donnant lieu non seulement à une réflexion, Midrash Halakha, mais à une narration, Midrash Agada, qu'il faut à son tour entendre, c'est-à-dire interpréter à des niveaux différents, etc. Donc, Blanchot a entendu Kafka comme écriture talmudique, c'est-à-dire comme ce commentaire perpétuel qui se répète et qui crée un volume par cette répétition. Le plus marquant dans ces textes où il n'y a qu'une trace, c'est cette écriture imbriquée entre le droit et le récit, donc le narratif et le comment on appelle ça, le droit, enfin
le juridique,
c'est ça, c'est l'imbrication du juridique et du narratif, et qui est ce qui frappe un lecteur du Talmud. Quand on ouvre le Talmud, on est surpris par cette imbrication du narratif et du juridique.
Comment expliquez-vous le nom impressionnant d'objets qui circulent dans l'œuvre de Kafka?
Et justement, alors je crois que ça peut-être aussi, ça rejoint l'écriture talmudique, où rien n'est abstrait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans la littérature talmudique, d'abstraction. Tout est concret. Même si on veut parler de transcendance, on parlera plutôt d'un œuf ou d'un bœuf. Mais tout en sachant que c'est ni de l'œuf ni du bœuf qu'il est question, et qu'il faut voir au-delà. Et alors ça, c'est peut-être...
Mais justement, c'est au-delà que Kafka n'atteint pas. Il reste toujours à l'extérieur de cet au-delà. C'est le drame de Kafka, mais c'est en même temps ce qu'il nous révèle, d'une certaine manière.
Charles Mopsik.
Kafka n'atteint pas l'au-delà, il n'atteint pas non plus la littérature, d'une certaine manière. Il reste au seuil de la littérature. Et d'une certaine façon, peut-être que le Talmud, et la littérature talmudique dans son ensemble également. Je veux dire, il y a comme un désir de littérature qui, au cours de son expression, accoste sur une plage plus intéressante que la littérature, proprement dite. Comme si Kafka c'était l'extrême limite de la littérature, à partir de laquelle commençait une autre forme d'écriture. Oui. Une écriture qui est justement cette imbrication, comme on l'a dit tout à l'heure, entre du narratif et du concret vie quotidienne, et du législatif. C'est comme si vous voulez...
Enfin, une œuvre aussi crée sa propre écoute avec le temps. L'écoute n'est pas faite pour autant. Elle doit se faire avec les générations, je suppose.
C'est-à-dire le sens n'est pas figé. Voilà. C'est-à-dire l'écoute n'est pas figée. Il y en a plusieurs. Alors là, ça rejoint justement ces quatre niveaux d'interprétation et le fait que le Talmud est commentaire et qu'il a été commenté et qu'il sera encore commenté. Et on est surpris, et tous les exégètes de Kafka sont surpris du nombre de commentaires qu'il y a eu sur Kafka, à tel point qu'on voit des articles qui disent « Méfiez-vous des exégètes ». Mais pour faire le lien entre ce dehors où Kafka est rejeté, tu dis qu'il n'atteint pas, je pense que c'est lié à un thème important. Alors là, c'est au niveau du thème, c'est plus dans la modalité de l'écrire de Kafka, mais dans le thème, c'est le thème de l'exil, qui a été souligné aussi par Blanchot. Et j'ai lu tout à l'heure dans Scholem, dans La Kabbale et sa symbolique, il disait, en citant l'auteur du Zohar, que le fait que le sens vrai, le sens authentique, a dû être relégué dans une profondeur comme le fruit dans une coquille, signifie l'exil de la Shrina, l'exil de la présence divine. C'est-à-dire que le fait que le sens ne soit pas donné, mais qu'on ait à le chercher, qu'il ne soit pas immédiat, mais enveloppé dans des coquilles, et c'est peut-être ça la volonté de Kafka, c'est d'envelopper ce qui est pour lui important. C'est-à-dire que le juridique ou le législatif pour Kafka, c'est pas des traces du fait qu'il était bureaucrate ou qu'il ait fait un doctorat en droit, c'est pas ça le problème. Je pense que c'est son interrogation sur le rapport à la loi. C'est-à-dire que en tant que juif, et dans le journal on voit que le judaïsme est quelque chose qu'il a interrogé, c'est son rapport à la loi qu'il interroge à travers ses livres dans une, on pourrait dire, une enveloppe de narratif.
Mais au lieu que dans le Talmud, la loi c'est quelque chose de gay, la loi est gay, on pourrait parler, pas du gay savoir, mais de la gay loi, dans le texte de Kafka, il suffit de lire le passage où il nous parle tout simplement de quelqu'un, d'un paysan qui vient au seuil d'un tribunal, et la porte est fermée. Et il y a un gardien dans la porte qui l'empêche d'entrer, qui dit non, ce n'est pas le moment d'entrer dans la loi. On ne peut pas entrer dans la loi. Et qui attend, et qui va attendre comme ça pendant des siècles. L'impossibilité d'entrer dans la loi. Alors que dans le Talmud, c'est au contraire. À chaque page, la façon de percer des chemins pour s'introduire, pour s'immiscer à l'intérieur de la loi. Il y a dans... Kafka témoigne peut-être d'une certaine manière, alors là, d'une manière plus générale, plus historique.
Il y a une différence pour vous entre le dehors et le dedans de la loi?
Ben oui. Si vous voulez, le dehors de la loi, c'est sa face épouvantable, sa face redoutable.
Joyeuse, tu viens de dire.
Non, le dehors de la loi, c'est justement le fait de ne pas pouvoir, d'avoir ce gardien, et d'avoir derrière ce gardien un autre gardien, et puis ensuite encore un autre gardien, et ainsi de suite, comme jusqu'à l'infini peut-être, qui empêche d'entrer dans la loi et d'accéder à la loi. De ne pas être un personnage passif par rapport à la loi, de ne pas subir la loi ou les lois, mais d'avoir affaire avec elle, comme on a affaire avec d'autres objets que l'on peut façonner, avec lesquels on peut discuter. Bon, on ne discute pas avec la loi.
Ça, le dehors de la loi. Le dehors de la loi, c'est l'image du château qui est visible, mais auquel il n'a pas accès. Et toujours Blanchot, qui je pense que c'est celui qui a fait l'analyse la plus fine de Kafka, montre un texte sur l'interdit de la représentation. C'est-à-dire comment Kafka a eu peur des images, de ce qui ne peut rester qu'image, et même de la littérature. À un certain moment dans le journal, il répète à plusieurs reprises que ce n'est qu'un spectre. Et ce dehors de la loi, c'est cette image que la loi donne, mais sans entrer dans la loi. C'est-à-dire sans entrer dans la halakha, au niveau talmudique. Et je pense que toute sa vie, il a été travaillé par ce problème du rapport à la loi, jusqu'à la fin de sa vie, où c'est peut-être la seule fois où il a eu un véritable rapport à la loi, en demandant au rabbi de guerre, qui était un ami du père de sa dernière fiancée Dora Diamant, et il lui a demandé s'il pouvait l'épouser, et le rabbi, un rabbi chassidique, a dit un non catégorique. Et il a, à ce moment-là, eu un rapport à la loi qui était positif, ça veut dire qu'il est rentré dans la loi pour sortir de la loi du mariage. Enfin, c'est assez compliqué, ça veut dire qu'il a accepté la loi de façon positive à partir du moment où la loi, pour lui, lui permettait d'être en dehors. Et c'est pour ça que je pense que, pour revenir toujours à ce texte des quatre rabbis qui sont rentrés dans cette profondeur de l'écriture, qu'il a un attachement particulier pour l'autre, pour Acher, pour celui qui est rentré, pas pour mourir, parce que c'est pas intéressant, mais pour ressortir de l'autre côté. Ça veut dire celui qui a su rentrer dans la profondeur et ressortir. Bon, c'est certain que chez Kafka,
avec quel visage? Ressortir avec le visage du renégat, de l'imposteur.
Du renégat, mais alors c'est ça qui est formidable dans ces pages de Chagiga. Tous les maîtres de la génération ont eu un faible, ont aimé cet autre, et il est resté le chouchou, on pourrait dire, de cette époque. Rabbi Meir, qui est son disciple.
Acher, c'est tout de même pas un nom laudatif, on n'appelle pas l'autre pour louer.
Non, c'était pas du tout quelque chose de très... de très positif d'être appelé l'autre, mais on voit que Rabbi Meir a été son disciple, et Kafka le reprend, il dit Rabbi Meir, un jour le suivait à cheval, un jour de Shabbat, alors que le Shabbat, on n'a pas le droit de monter à cheval. Et alors là, c'est surprenant, parce qu'il met dans la main de Rabbi Meir un Talmud, c'est un ouvrage, un volume du Talmud, alors que dans le texte original, il n'y a pas de Talmud dans la main de Rabbi Meir. C'est-à-dire que le livre suit celui qui a su sortir de la loi, on va dire.
Janvier. Qu'ai-je de commun avec les Juifs? C'est à peine si j'ai quelque chose de commun avec moi-même. Et je devrais me tenir bien tranquille dans un coin, content de pouvoir respirer.
Faut-il brûler Kafka? C'est ça l'incroyable chose, n'est-ce pas? C'est qu'il y a là ce feu, est marqué là sur Prague d'une manière ineffaçable.
Jean Thibaudeau.
Et oui, attendez, je parle tout seul, ce qui fait que je perds le fil, ou je le suis trop vite. Propos de politique, politique de la politique de Kafka. Il y a quelqu'un que j'aime à l'égal de Kafka, c'est Antonio Gramsci. Alors Antonio Gramsci, lui, dans les prisons de Mussolini, va à la mort, d'une manière tout à fait évidente, il est malade, il mourra en prison, va à la mort avec la même, en somme, par un chemin droit, tout droit, assez identique à celui, au chemin qui mène Kafka à la mort, je veux dire, un chemin en pente très douce. Et donc Gramsci va écrire dans sa prison des lettres, énormément de lettres. Et j'ai l'impression que cette prison de Gramsci, cette manière qu'a Gramsci de faire que la prison devient entièrement transparente, ce qui est tout à fait nié, la prison, Cette cellule de la prison de Gramsci, c'est le même lieu exactement que la chambre impossible d'écriture de Kafka.
Le terrier. J'ai aménagé le terrier et il paraît bien réussi. De l'extérieur, on ne voit qu'un grand trou, mais en réalité, ce trou ne conduit nulle part. Après quelques pas déjà, on bute contre un énorme bloc de pierre que la nature a placé là. Je ne veux pas me vanter d'avoir prémédité cette ruse, c'était plutôt le vestige de l'une de ces nombreuses tentatives de construction qui échouèrent. Mais pour finir, il m'a paru avantageux de ne pas combler ce trou. Je sais bien qu'il y a des ruses si subtiles qu'elles finissent par tourner contre elles-mêmes. Je le sais mieux que personne, et je trouve bien téméraire d'attirer l'attention sur ce trou et de suggérer qu'il peut y avoir ici quelque chose qui vaudrait la peine de chercher plus avant. Mais il se trompe sur mon compte celui qui croit que je suis poltron et que je ne construis mon terrier que par lâcheté. Mais à quelques mille pas du trou s'ouvre la véritable entrée, recouverte d'une couche de mousse que je puis soulever. S'il y a quelque chose au monde qui soit en sécurité, c'est bien cet endroit. Certes, quelqu'un peut marcher sur la mousse ou pousser à l'intérieur, alors mon terrier lui appartient. Et le premier venu qui en a l'envie, supposé qu'il ait, bien entendu, certains talents qui ne sont pas monnaie courante, peut y pénétrer et tout détruire à jamais. Je le sais bien, et c'est à peine si toute ma vie, maintenant même, à son point culminant, connaît le calme entier une heure durant. Là, en cet endroit de sombre mousse, je suis mortel, et souvent, dans mes rêves, je vois un museau gourmand qui renifle inlassablement tout alentour. J'aurais pu, croit-on, amener de la terre pour boucher complètement cet orifice lui-même. Une couche mince en haut, et d'abord de la terre solidement tassée, qui irait plus bas en s'allégeant, de telle sorte que je n'aurais jamais eu beaucoup de peine à déblayer chaque fois le terrain pour sortir. Mais la chose n'est pas possible. La prudence même exige que je dispose d'une possibilité de sortie immédiate. La prudence même exige, comme elle le fait hélas si souvent, que je cours le plein risque de ma vie. Ce sont là des calculs bien pénibles, si la joie que prend à soi-même une tête lucide est souvent l'unique raison qui pousse à calculer toujours plus avant. Cette sortie ne me sera d'aucun secours. N'importe comment, il n'y a rien à en attendre, et pour dire vrai, elle est même ma ruine. Mais elle représente une espérance et je ne puis vivre sans elle. En dehors de cette grande voie, il y en a encore d'autres, très étroites et offrant une relative sécurité. Elle me lie avec le monde extérieur et me procure le bon air frais que je respire. Ces conduites ont été percées par les souris des bois. Je suis m'y prendre pour les associer convenablement à ma construction. Elles m'assurent la possibilité d'une large ventilation et contribuent à ma protection. De plus, ces chenoux conduisent vers moi toute espèce de petites bestioles que je dévore, et je puis avoir de la sorte un certain gibier qui suffirait à l'entretien d'une vie modeste sans que j'aie le moins du monde à quitter mon terrier. Bien sûr, c'est très précieux. Le plus beau dans mon terrier, c'est sa tranquillité. Sans doute est-elle fallacieuse. Une fois, brusquement, elle pourra s'interrompre et s'en sera fait. Pour l'instant, elle persiste encore. Pendant des heures, je puis ramper à travers mes couloirs et je n'entends rien, sinon parfois le frôlement de quelques bestioles que je fais taire immédiatement entre mes dents. Ou bien un peu de terre qui s'éboule et qui me rappelle la nécessité de quelques réparations. À part cela, c'est tranquille. L'air de la forêt souffle à l'intérieur, il fait en même temps chaud et frais. Parfois je m'allonge et de contentement je me roule sur moi-même dans le couloir. Il est beau pour celui qui voit sa vieillesse approcher d'avoir un pareil terrier.
Pas trop déçu par le terrier
Non, c'est difficile d'introduire des nuances. C'est assez abstrait comme, comme...
Vous en êtes où, là?
Alors là, j'en suis au premier tiers. Vous savez, là, il y a encore pratiquement 15 minutes autour de ce problème de l'organisation du terrier proprement dit pour qu'il soit imprenable. Et puis là, commence après... donc une espèce de récit symétrique, puisque à ce moment, au moment où il est le plus rassuré, voilà qu'il entend un bruit. Et elle recommence absolument la même longueur presque. Donc c'est très dur à lire. Enfin.
Et qu'est-ce que vous pensez de ce bruit, vous, le peintre Jean Le Gac?
Oui, je crois que c'est le bruit de son sang. Je pense que bon, c'est, bien sûr, c'est une invention. Qu'il n'y a pas de danger véritable, que le seul danger, c'est la mort, quoi. D'ailleurs, dans le récit, ça revient, hein, à plusieurs reprises. Il dit « je me fais vieux », enfin, ça revient deux ou trois fois.
Hein. Ben, le danger, c'est lui-même.
Bon, c'est tout le travail qu'il faut pour essayer de se survivre, et au moment où ce travail est accompli, eh bien, il se fait tard, et la mort est là, quoi. C'est toujours cette fameuse histoire, vous savez, quand la maison est finie, la mort arrive, quoi. Mais je crois qu'il est plus intéressant d'éviter, enfin, tout rapprochement symbolique avec l'idée de propriété ou même l'idée métaphysique de la vie humaine. Je crois que c'est plus intéressant, et Starobinski le dit dans l'introduction, de voir ça sous la forme du travail de l'écrivain. Parce que la top, c'est réellement Kafka, hein, avec ses mots qui s'alignent, qui noircissent les pages qui doivent s'empiler, ainsi de suite. Enfin, je crois que quand on le lit en pensant au travail de l'écrivain, d'abord on évite tout symbolisme comme ça, mais ce récit devient vraiment intéressant. D'ailleurs, là, dans ce que j'ai lu, moi, dans la partie que j'ai lue, j'ai éliminé, arbitrairement, mais enfin, les quelques petites phrases qui font comprendre que c'est un animal. Je n'ai pas parlé du front, je n'ai pas parlé de choses de ce type-là. Enfin.
Et qu'est-ce qui vous intéresse, vous, Jean Le Gac, dans cette nouvelle?
Je dois dire, quand vous m'avez parlé de Kafka, c'est une des premières qui me soit revenue à l'esprit. Mais je faisais aussi un amalgame, c'est-à-dire je pensais, en réalité, quand j'ai relu cela, je pensais à l'autre récit qui s'appelle « La taupe géante ». Et j'ai beaucoup hésité d'ailleurs, je me disais ce matin peut-être qu'il vaudrait mieux lire « La taupe géante ». Et je ne l'ai pas fait simplement parce qu'il est plus difficile à lire. Enfin,
Qu'est-ce qu'il raconte ?
J'aime beaucoup parce que c'est moins abstrait que le Terrier. Il y a tout un environnement anecdotique. Ça se passe dans un petit village, on sait qu'il n'y a pas de gare, que le train n'arrive pas jusque-là. Et il y a, comme on en voit parfois dans les journaux locaux comme ça, lorsque l'été il n'y a plus d'événements, enfin on raconte parfois que les Martiens arrivent, et là on raconte qu'il y a un animal fabuleux qui est apparu, une taupe géante. Naturellement, on dit ça de bouche à oreille, personne n'est sûr que ce soit vraiment vrai. Et l'instituteur, peut-être est-il à la retraite, enfin en tout cas il a du temps à perdre, fait un travail de recherche et édite une petite plaquette. Alors là, c'est bien parce que c'est vraiment le travail de l'écrivain. Enfin, il édite une petite plaquette, même il racontait que c'est pas si facile que ça de le faire. Il le fait à compte d'auteur, je crois pas que je l'ai inventé, ça doit être dit dans le récit. Et bien entendu, cela n'a aucun succès auprès du grand public. Cette affaire retombe dans le plus profond silence. Tout serait bien, la vie continue. Et voilà qu'un autre narrateur se dit « ce n'est pas possible, il faut que je démontre non pas l'existence de la taupe », et là il y a un tour de vis, et ça c'est bien dans les nouvelles de Kafka, « il faut que je montre la bonne foi de l'instituteur ». Et naturellement, il y a toutes sortes de propos pour essayer de dégager si c'est vraiment, si c'était pur son projet, ou s'il n'essayait pas de shipper à l'autre la propriété de sa découverte. Et ça, c'est très très intéressant. Enfin, on sent Kafka en train de régler des problèmes avec peut-être des influences littéraires ou des choses de ce type-là. On sent Kafka qui était sans doute très exigeant, en train de se poser des problèmes, aurait-il, oui ou non, dû publier, enfin, telle plaquette. Max Brod, est-ce qu'il était content qu'il l'ait fait, enfin, je crois que c'est comme ça que ce petit récit est passionnant. Et je le préfère un peu au Terrier, à cause des raisons anecdotiques, qui ont l'air si éloignées de la problématique de la création, qu'au contraire, elle en montre mieux les mécanismes. Enfin.
Est-ce que, selon vous, la lecture de Kafka peut vous apporter quelque chose sur le plan visuel, dans votre travail ?
Ah oui, enfin, ça c'est un auteur qui, pour moi, compte beaucoup. Bon, il y a tout ce que tout le monde a trouvé, c'est-à-dire d'abord le côté objectif, enfin, de Kafka, le côté journaliste, pas pressé, qui essaie vraiment de trouver la vérité. Et naturellement, dans cet effort, je retrouve l'effort que je dois faire moi-même pour non pas trouver mes idées, non, je dirais, non pas pour trouver des pensées nouvelles, mais pour trouver l'idée, enfin, qui se cache entre l'utilisation d'images, comme je le fais, et de textes. Et tout ce travail préparatoire, c'est le travail de création. D'ailleurs, c'est bien que les nouvelles de Kafka, je crois, moi, pas que ce soit un accident, soit la plupart du temps inachevé. Parce que après, on tomberait dans le symbolisme, il faudrait une fin pour... et ça ferait dévier du travail de création, qui est le travail de top.
Mmh.
2 juin. Que d'égarements provoqués par les femmes. En dépit de mes maux de tête, de mon insomnie, de mes cheveux grisonnants et de mon désespoir. Je compte, il y en a eu au moins 6 depuis cet été. Je ne peux pas résister. Si je ne cède pas au besoin d'admirer une fille qui en est digne et de l'aimer jusqu'à épuisement de mon admiration, c'est positivement comme si on m'arrachait la langue de la bouche. À l'égard de toutes les 6, je n'ai presque qu'une culpabilité intérieure, mais l'une d'elles m'a fait faire des reproches par quelqu'un. Le 19 juin. Tout oublié. Ouvrir la fenêtre. Vider la chambre. Elle est traversée par le vent. On ne voit que le vide. On cherche dans tous les coins et l'on ne se trouve pas. Le 6 juillet. Nuit de détresse. Impossibilité de vivre avec F. Impossibilité de supporter la vie en commun avec qui que ce soit. Ne pas le regretter. Regretter l'impossibilité de ne pas être seul. Un pas de plus. Absurdité du regret. Se soumettre et comprendre enfin. Se relever. Tiens-toi à ton livre. Mes nouveaux pas en arrière. Insomnie, maux de tête. Sauter par la fenêtre haute, mais tomber sur le sol amolli par la pluie où le choc ne sera pas mortel. Rouler sans fin, les yeux fermés s'offrant à je ne sais quel regard ouvert. Le 19 juillet. 29 juillet. Bouffon. Étude sur le bouffon. La grande époque du bouffon est sans doute passée et ne reviendra plus. Tout temps a d'autres fins, inutile de le nier. Qu'importe, l'institution de la bouffonnerie peut bien cesser désormais d'appartenir à l'humanité et se perdre, j'en aurais tout de même joui jusqu'au bout. Le 31 juillet. Être assis dans un wagon de chemin de fer, l'oublier, vivre comme chez soi, s'en souvenir brusquement, sentir la force du train qui vous emporte, devenir voyageur, tirer sa casquette de la valise, traiter son compagnon de voyage avec plus de liberté, de largesse, d'insistance, être emporté vers le but sans le mériter, sentir cela à la manière d'un enfant, devenir le favori des femmes, subir l'attraction incessante de la fenêtre, poser toujours au moins une main sur le rebord. Situation découpée avec plus de rigueur, oublier qu'on a oublié, être d'un seul coup un enfant voyageant seul dans l'express et autour duquel s'édifie, comme surgissant de la main d'un prestidigitateur, le wagon tremblant de hâte, admirable jusque dans ses plus infimes détails. Le 6 août. Préparez la route pour le serpent, cria-t-on. Préparez la route pour la grande madame. Nous sommes prêts, lança-t-on en réponse. Nous sommes prêts. Et nous qui préparons les routes, nous, casseurs de cailloux en renom, nous sortîmes des bois. Allez-y, s'écriait notre commandant. joyeux comme toujours. Allez-y, vous autres, espèce de viande à serpent. Là-dessus, nous levâmes nos marteaux, et les coups les plus actifs retentirent sur des lieux de distance. Aucune pause ne fut permise, rien qu'un changement d'outil, de main en main. L'arrivée de notre serpent était annoncée pour le soir même. Jusque-là, il fallait que tout fût réduit en poussière. Notre serpent ne supportait pas le moindre caillou, fût-il infime. Où donc trouverait-on un serpent aussi délicat? Aussi bien est-ce un serpent unique en son genre. Nous le choyons de façon incomparable par notre travail, et par là, il est donc déjà d'une espèce incomparable. Nous regrettons sans le comprendre qu'il continue à s'appeler serpent. Il devrait pour le moins s'appeler toujours Madame, encore qu'il soit bien entendu tout aussi incomparable sous ce nom. Mais cela ne nous concerne pas. Notre tâche, à nous, c'est de faire de la poussière. Octobre. Belle journée ensoleillée, chaude, sans vent. La plupart des chiens aboient sans raison dès qu'ils voient venir quelqu'un de loin. D'autres, qui ne sont peut-être pas les meilleurs chiens de garde, mais se conduisent en créatures raisonnables, s'approchent tranquillement de l'étranger, le flairent et n'aboie que s'ils sentent une odeur suspecte. 6 novembre. Incapacité pure et simple. 10 novembre. Jusqu'ici, je n'ai pas noté les choses décisives. Le fleuve que je suis forme encore 2 bras. Le travail qui m'attend est énorme. Je vais arrêter là pour le journal. Hein.
« 27 février 1922. Mal dormi cet après-midi, tout est changé. Une fois de plus, la détresse me sert de près. « 28 février 1922. Coup d'œil sur la tour et le ciel bleu, sans mouvement. « 1er mars 1922. Richard III. Syncope. « 5 mars, 3 jours au lit, petite réunion à mon chevet, changement brusque, fuite, défaite complète, toujours l'histoire universelle enfermée dans des chambres. « 6 mars, fatigue et gravité nouvelle. « 7 mars, la soirée d'hier, la pire de toutes, comme si tout était fini. « 9 mars. Ce n'était pourtant que de la fatigue, mais aujourd'hui, nouvelle crise qui me met le front en sueur. Et s'il en était cause de sa propre asphyxie, si sous la pression de l'introspection, l'ouverture par laquelle on se déverse dans le monde devenait trop étroite ou se fermait tout à fait, il y a des moments où je ne suis pas loin d'en être là. Un fleuve qui coule à rebours. Ce qui se produit maintenant est, pour une grande part, depuis longtemps en train de se faire. utiliser le cheval de l'adversaire pour sa propre course. Unique possibilité. Mais que de force, que de tour d'adresse il faut pour cela. Et comme il est déjà tard. La vie de la jungle. Je suis jaloux de la nature qui, tout en étant heureuse, inépuisable, et pourtant visiblement poussée au travail par la détresse, comme moi, me satisfait toujours aux exigences de l'ennemi. Elle est si légère, si musicale. Autrefois, j'étais heureux quand je souffrais et que la douleur cessait. Maintenant, je ne suis que soulagée et j'ai ce sentiment amer. Te voilà de nouveau bien portant, rien de plus. Le secours m'attend quelque part et les rabatteurs me mènent vers lui. Mars. Pendant le dîner de ce soir, conversation sur les meurtriers et les exécutions capitales. Ma poitrine, au souffle calme, ne connaît aucune peur, aucune différence entre un meurtre projeté et un meurtre accompli. 22 mars. Cet après-midi, rêve d'une tumeur sur ma joue. Cette frontière oscillant perpétuellement entre la vie ordinaire et une terreur en apparence plus réelle. 24 mars. Comme je suis guettée. Quand je vais chez le médecin, par exemple, c'est si souvent là que cela me guette. 29 mars. Dans le courant. 4 avril 1922, comme le chemin est long de ma détresse intérieure à la scène qui se passe dans la cour, mais on est désormais dans son pays natal et l'on ne peut plus repartir. 6 avril, je m'en doutais, depuis 2 jours, j'ai eu une crise hier, la persécution continue, grande puissance de l'ennemi. L'une des causes, conversation avec ma mère, plaisanterie sur l'avenir, projet de lettre à Milena. Les 3 Erini, fuite dans le bois sacré, Milena. Les 5 principes qui mènent à l'enfer dans leur succession génétique. Premièrement, le pire se trouve derrière la fenêtre. Tout le reste est angélique, soit qu'on le déclare en termes nets, soit si l'on n'y prend pas garde, c'est le cas le plus fréquent, qu'on le reconnaisse tacitement. Deuxièmement, tu es tenu de posséder toutes les femmes, non pas à la manière de Don Juan, mais pour te confronter à ce que le diable appelle l'étiquette sexuelle. Troisièmement, cette femme, il ne t'est pas permis de la posséder, et par conséquent, tu ne le peux pas. Fata Morgana céleste en enfer. Quatrièmement, tout n'est que besoin. Comme tu as le besoin, sois satisfait. Cinquièmement, le besoin est tout. Comment pourrais-je avoir tout? En conséquence, tu n'as même pas le besoin. Jeune garçon, j'étais aussi innocent, aussi peu intéressé par les questions sexuelles, et je le serais resté très longtemps si l'on ne m'avait poussé à m'en occuper, que je le suis aujourd'hui, disons, par la théorie de la relativité. Seuls les détails insignifiants attiraient mon attention, et même cela après qu'on m'eut fourni des éclaircissements précis, le fait, par exemple, que les femmes de la rue, qui me semblaient les plus belles et les mieux habillées, dussent précisément être mauvaises. La jeunesse éternelle est impossible. Même s'il n'y avait pas d'autre obstacle, l'introspection s'y opposerait.
Dans une partie de cartes, avec la visible intention de permettre au jeuneur de prendre un petit réconfort. Il n'avait qu'à aller la puiser, pensait-il, dans quelques réserves secrètes. Rien n'était plus pénible au jeuneur que ce genre de surveillant. Ces gens le rendaient mélancolique. Le jeûne devenait difficile avec eux. Parfois, surmontant sa faiblesse, il chantait pendant leur faction aussi longtemps qu'il le pouvait. Pour leur montrer le tort immense qu'ils avaient de le soupçonner. Mais c'était en pure perte. Les autres ne s'étonnaient plus que de l'adresse avec laquelle ils s'entendaient à manger en chantant. Il aimait beaucoup mieux les contrôleurs qui s'asseyaient tout près de la grille et qui, ne se contentant pas de la trouble lumière de la salle, le maintenait sous le rayon des lampes de poche que l'impresario mettait à leur disposition. L'éclairage cru ne le gênait pas. De toute façon, il lui était impossible de dormir. Sous tout éclairage et à toute heure, même dans le tapage de la salle comble, il était toujours prêt, avec de tels gardiens, à passer la nuit sans sommeil. Il était toujours prêt à plaisanter avec eux, à leur raconter ses anecdotes de nomades et à écouter leurs histoires en retour. Il était prêt à tout pour peu qu'il pût les tenir éveillés et leur montrer à chaque instant qu'il n'avait rien de comestible dans sa cage et qu'il jeûnait comme nul d'entre eux ne l'aurait su. Mais il touchait au comble du bonheur quand, le matin venu, on leur apportait à ses frais un déjeuner super copieux avec lequel il se jetait avec l'appétit d'hommes sains qui viennent de passer une nuit blanche. Il y avait bien, à vrai dire, des gens qui voulaient voir dans ce déjeuner une illicite tentative de corruption des contrôleurs. Mais ils allaient vraiment trop loin. Et quand on leur demandait s'ils voulaient eux-mêmes se charger de la surveillance de nuit, sans le déjeuner, pour le pur amour de la chose, ils s'esquivaient, quoiqu'en restant sur leurs soupçons. Ces doutes faisaient d'ailleurs partie de ceux qu'on ne peut éviter dans une évaluation du jeûne. Nul, en effet, n'était capable de passer ses jours et ses nuits à observer le jeûneur sans arrêt. Par conséquent, nul ne pouvait savoir, par suite d'un contrôle personnel, si l'artiste avait vraiment jeûné impeccablement. Le jeûneur, seul, pouvait le savoir. Il pouvait seul constituer devant son jeûne un spectateur parfaitement satisfait. Mais, de son côté, il ne l'était jamais, et cela pour une autre raison. Peut-être n'était-ce pas le jeûne qui la maigrissait au point que bien des gens devaient renoncer, à leur grand regret, à suivre ses exhibitions, parce qu'ils n'auraient pu supporter son aspect. Peut-être ne maigrissait-il tant que par mécontentement de soi. Il était seul, en effet, à savoir, et nul initié ne s'en doutait combien le jeûne est chose facile. Il n'était rien de plus aisé. Il ne le taisait d'ailleurs pas, mais on ne voulait pas le croire. Les gens indulgents croyaient qu'il parlait par modestie, et les autres, la majorité, le prenaient pour un fanfaron, assoiffé de réclames, ou même pour un bluffeur éhonté. Le jeûne lui était facile. Naturellement, il s'entendait à le rendre tel. Il avait encore le front de vous l'avouer à moitié. Il lui fallait accepter tout cela. Il s'y était d'ailleurs accoutumé avec le temps, mais son mécontentement ne cessait de le ronger. Il n'avait encore jamais quitté volontairement sa cage, jamais après aucune période de jeûne. C'était un témoignage qu'on était obligé de lui rendre. Comme temps maximum du jeûne, l'impresario avait fixé 40 jours. Il ne laissait jamais jeûner le champion au-delà de ce délai, même pas dans les grandes villes, et pour une bonne raison. L'expérience prouvait en effet que pendant 40 jours, une réclame bien dosée pouvait aiguillonner l'intérêt d'une cité d'une façon de plus en plus efficace, mais qu'ensuite le public se raréfiait, on enregistrait une notable diminution de la demande. Il pouvait bien y avoir sur ce point de légères différences entre les villes et les campagnes, mais en règle générale, 40 jours était un maximum. Le 40e jour, on ouvrait donc la porte de la cage en guirlandée de fleurs. Un public enthousiaste emplissait l'amphithéâtre. Une musique militaire jouait. Deux médecins entraient dans la cage pour opérer sur le jeûneur les mensurations nécessaires. Un haut-parleur proclamait les résultats dans la salle. Et finalement, deux jeunes dames, toutes heureuses d'être les élues, se présentaient pour essayer de faire descendre à l'artiste les quelques marches de sa cage. En bas, sur une petite table, on lui avait servi un repas de malade, précautionneusement combiné. À ce moment-là, le champion se défendait toujours. Sans doute acceptait-il encore de passer volontairement ses humérus, les mains soupirales des dames qui se penchaient sur lui. Mais c'était tout. Il ne voulait pas se lever.
C'était le 9e et dernier épisode d'une journée France Kafka par Jean Dave, Isabelle Huel et Jacques Taroni, diffusé pour la première fois le 17 septembre 1983, avec Alain Weinstein, Marc-Alain Wachnin, Charles Mopsik, Jean Thibaudeau, Jean Le Gac, Anne-Marie Albiac et Christian Boltanski. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture à la page des nuits et sur l'application Radio France.